Radio Barque 39e, alors on retrouve Hélène Mandeau, puisque vous aviez commencé déjà à vous exprimer à ce micro, mais cette fois-ci, la raison de votre venue, Hélène Mandeau, c'est ce livre « Ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire ». Donc, le sous-entendu est flagrant. Aujourd'hui, vous prenez le temps de dire un certain nombre de choses.
Absolument.
Alors, que souhaitez-vous dire, Hélène Mandeau ?
Ce que j'ai souhaité dire dans ce livre, c'est que je pense qu'à la fin d'un mandat, chaque élu se doit de rendre des comptes aussi bien à ceux qui ont voté pour vous que ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et donc, je n'ai pas eu le temps, effectivement, de dire aux Montpelliérains à la fin de mes 10 ans de mandat de maire, et notamment à la fin de mon deuxième mandat, c'est-à-dire en 2014, je n'ai pas eu le temps de leur dire ce que j'avais pu faire, ce que j'avais pu ne pas faire, ce que j'avais fait ou ce que j'avais pas fait. Et je pense que par honnêteté, chaque élu se doit de dire à ses électeurs ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est aussi un petit peu cette réflexion qui est dans ce livre. Et c'est Madame Gwenaëlle Garlavé, que je ne connaissais, que je n'avais vue qu'une seule fois, qui m'a motivée, qui est venue me demander si j'acceptais d'écrire un livre avec elle. Et l'aventure a commencé comme ça.
Et alors là, vous attendez quand même 2 ans pratiquement. Pourquoi avoir attendu 2 ans ?
Je crois qu'il faut laisser le temps au temps.
Oui.
Je pense que je le disais même à mes patients, vous voyez, quand ils étaient impatients. Je leur disais, laissez le temps au temps. Le temps, c'est une très bonne thérapeutique. D'abord, ça vous laisse effectivement le temps de réfléchir, d'analyser. Vous n'êtes plus dans l'irrationnel. Vous pouvez remettre les choses à plat et les regarder calmement, sereinement. Tandis que quand vous êtes dans l'actualité, réel. Alors là, des fois, il y a des réactions, parfois qu'on peut regretter ou ne pas regretter, ça dépend. Donc il faut à la fois réagir, mais un livre, il faut prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça que j'ai pris le temps.
Parenthèse, ça n'avait pas été dit, professionnellement, vous êtes médecin.
Absolument, et je le revendique, et j'ai toujours dit, je suis médecin avant d'être mère. C'est mon identité, et ça... C'est comme ça.
Alors, vous avez été maire donc de Montpellier entre 2004 et 2014.
Tout à fait.
Votre mandat s'est terminé d'une façon assez rocambolesque et pour vous, j'imagine, en employant un bel euphémisme, désagréable. Et évidemment, vous faites référence à ces choses-là dans votre livre.
Oui, effectivement. Je pense que c'était une nécessité d'expliquer comment les choses se sont passées parce que je crois que tout le monde a vu parfois, on dit des fois que la partie de l'écume, vous voyez, qui dépasse, ou la partie de l'iceberg qui dépasse, et on ne voit pas en fait la réalité des événements. Donc j'explique calmement, sereinement, comment cela s'est passé, c'est Jean-Marc Ayrault, à l'époque Premier ministre, qui, un jour qu'il était là, a dit « Ben voilà, Madame Hélène Mandeau ne se représentera pas à son mandat de maire », alors que ce n'était pas prévu que ça se passe ce jour-là.
Bon, voilà. C'est ça qui est assez surréaliste, c'est-à-dire vous découvrez qu'un Premier ministre a... paraît-il, lu dans vos pensées
lu dans mes pensées, ça c'est pas sûr. Personne n'arrivera jamais à lire dans mes pensées. Ça, alors là, de ce côté-là...
En tout cas, il en avait conclu que Mme Hélène Mandeau
En discussion, effectivement, puisqu'il m'avait demandé si une mission interministérielle pouvait m'intéresser, ne dépendant que du Premier ministre. À la réflexion, je lui avais proposé une mission qui me paraissait correspondre d'une part à mon identité professionnelle et aussi à mon mandat d'élu. Je lui avait proposé le problème de la désertification médicale, car c'est un vrai, vrai problème.
Et on s'en aperçoit chaque jour.
Et vous en apercevez tous les jours. J'avais déjà commencé à travailler, notamment avec le Conseil de l'Ordre des représentants nationaux. J'avais commencé à travailler avec des élus ruraux, parce que ce problème de désertification médicale concerne non seulement la ruralité, mais concerne aussi les banlieues périphériques, les quartiers périphériques des grandes villes. C'est dans ces zones-là qu'effectivement la désertification se propage. Et il y avait aussi un autre problème, et là aussi on le voit tous les jours, c'est le problème des urgences. Et vous savez qu'aussi je suis une ancienne anesthésiste urgentiste, donc je pensais que mes qualités de médecin, d'ancienne urgentiste et le fait que j'ai été une élue, je pensais pouvoir être un peu à l'interface et pouvoir travailler sereinement pendant au moins 1 an, 2 ans pour pouvoir proposer des problèmes par rapport à ce problème de désertification médicale.
Et ça n'a pas collé.
Écoutez, il y a eu, n'oubliez pas que, en même temps que tout de suite après les élections municipales de 2014, où tout à l'heure vous parliez de débâcle socialiste, il y a eu effectivement à l'époque une certaine débâcle socialiste.
Oui.
Donc beaucoup de mairies qui étaient roses sont passées bleues. Oui, et donc il y a eu un changement de Premier ministre. Et donc ma mission dépendait de Jean-Marc Ayrault, effectivement. Puis il y a eu un changement de Premier ministre. Et puis entre-temps, j'ai eu la malheureuse idée de me fracturer, avoir une fracture ouverte du poignet gauche. Donc je me suis plus occupée de moi, du coup, que de cette mission. Et puis donc la mission s'est arrêtée avant même d'avoir commencé.
Oui, c'est plus une question de circonstances que pas de refus de votre part.
Hein. Ah non, non, c'est moi qui ai proposé. Voilà, moi j'ai rien refusé. Puisqu'on m'a demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire en mission interministérielle. Naturellement, c'est moi qui ai proposé ce sujet-là, et le sujet avait été accepté par Jean-Marc Ayrault.
Alors, dans le passé également, il y a des épisodes assez difficiles, même lorsque vous étiez maire, donc véritablement au pouvoir et assise au pouvoir, où il y a des retours de bâton parfois qui étaient assez inattendus. Alors, bien entendu, pour qui a connu Georges Frêche et qui avait un bon décodeur sachant décoder le Frêche, bon, peut-être qu'ils comprennent un peu plus, mais il y a des moments où on vous a rudoyé salement.
Oui, parce qu'à l'époque, il était président du conseil de la communauté d'agglomération. Donc c'était compliqué.
Oui, il était président de région aussi.
Président de
l'agglomération, et il était conseiller municipal délégué au sein de ma propre assemblée.
Oui, parce qu'il avait dit en quelque sorte, bon, voyons, je mets le mandat au maire, mais c'est moi qui tiendrai le pouvoir.
Quoi. Oui, ah, non, voilà, mais non,
c'est passé comme ça. Et à un moment, il y a...
Vous savez, je pense que succéder à Georges Frêche, à mon avis, quiconque, aurait succédé à Georges Frêche, ça ne pouvait pas être, j'allais dire, calme. Parce que Georges Frêche, c'est quelqu'un que je pense que c'était un grand maire, c'était un grand politique, mais il était toujours en équilibre s'il avait face à lui quelqu'un sur lequel qu'il pouvait affronter. Il ne pouvait pas accepter le régime plat, calme. Régime calme, c'était pas possible.
Voilà.
Donc je suis devenue maire en 2004. J'ai été élu, alors de 2004 à 2008, j'avais été élu par mes pairs suite à la volonté effectivement de Georges Frêche et de Robert Navarro. En 2008, j'ai été élu par les Montpelliérains qui m'ont élu clairement en 2008. Mais pendant mes 10 ans de mandat, je veux dire, j'ai fait des choix, certainement des choix que Georges Frêche n'aurait pas fait, et notamment le premier d'entre eux que j'avais fait dès 2004, c'est de les dossiers en rue, c'est-à-dire tout à l'heure, je vous parlais des quartiers périphériques des grandes villes, je vous parlais de désertification médicale. Ces quartiers, effectivement, ce sont les dossiers en rue, et je me suis lancée tout de suite dans ces quartiers-là, parce que je pense qu'un quartier qui ne va pas bien, c'est l'ensemble de la ville qui ne va pas bien, et donc... Voilà un dossier que Georges Frêche, par exemple, n'aurait pas souhaité faire. Donc, chacun sa personnalité. Et quand on me demandait certaines choses, en dehors du fait que lui, c'était un homme et moi une femme, donc déjà, les choses sont un peu différentes. Mais Georges Frêche, c'était un professeur de la faculté, professeur d'histoire du droit. Donc, c'est un homme qui avait l'habitude de faire... Et en plus, quand il faisait des discours, tout le monde les écoutait tellement les discours étaient absolument fabuleux. Donc, il avait l'habitude d'être... ex-cathédra, vous voyez, devant les étudiants, alors que moi, pas du tout. Moi, je suis médecin, moi, j'étais dans le colloque singulier de la personne qui était en face de moi, et qui venait m'expliquer pourquoi elle n'était pas bien, pourquoi elle avait mal. Moi, j'ai passé un peu, si vous voulez, par là, ma vie à écouter des hommes et des femmes face à moi, voilà...
Dans le tête-à-tête, quoi.
Voilà, dans le tête-à-tête. Donc, automatiquement, la façon de faire ne pouvait être que différente.
Bien sûr. C'est très juste qu'on analyse. Oui.
Voilà. Mais, encore une fois, Georges Frêche étant capable, vous venez de le dire, du meilleur, mais aussi parfois du pire, ça vous a valu des noms d'oiseaux, d'ailleurs. Vous en reprenez
un. Non, mais vous savez, honnêtement, ça ne m'a pas perturbé du tout.
Bon, parce que vous en reprenez un dans votre livre, un chapitre que vous intitulez « La conne », je cite.
Absolument. Mais oui, non, mais c'est... Mais oui, mais vous savez que je l'avais... Que c'était,
et encore, c'est gentil, ça, hein, parce que...
J'ai assisté à des réunions où certains qui étaient... Effectivement, ils avaient d'autres... Non, mais venant de lui, je savais que c'était... Vous savez, tout aussi bien la conne, pour lui, c'est presque un mot gentil. Vous voyez ce que je veux dire.
C'était affectueux.
Oui, mais presque, oui. Presque, c'est ça. Ça peut étonner quand on ne connaît pas. Mais c'est presque c'était ça. Parce que moi, je l'ai eu au téléphone et je lui avais expliqué, parce qu'il n'était pas content. Mais je l'explique dans mon livre, c'est par rapport au musée de la présence française en Algérie. Effectivement, lui, il voulait. Ce musée dépendait de la mairie. Il voulait au départ faire. C'était la présence positive de française en Algérie. Moi, j'avais évolué plutôt sur une présence réelle, et donc j'avais des historiens. Et donc le musée avançait, mais il trouvait qu'il avançait pas assez vite, et c'est pour ça qu'il m'a traité de conne, mais c'est pas grave.
Non,
le problème, c'est que là aussi, je l'explique dans mon livre, c'est que donc du coup, je lui ai redonné la délégation, Il a voulu donc que je lui ai donné la délégation de ce musée, je l'ai fait passer à l'agglomération. Mmh. L'agglomération, in fine, en 2008, le musée n'était toujours pas ouvert. Mmh. En 2014, quand Philippe Sorel est arrivé, le musée n'était toujours pas ouvert, n'avait pas été ouvert par Jean-Pierre Moore. Et Philippe Sorel vient l'a arrêté. Donc voilà. Donc,
et il a enterré, à votre avis, cet enterré?
Ah, il a dit qu'il l'avait arrêté. Fini, oui, il l'avait arrêté. Voilà, arrêté.
Ça n'est voilà. pas simplement.
Donc voilà. Donc voyez l'origine du mot et la fin de l'histoire. c'est assez surprenant.
Alors Hélène Mandrouille, il y a le passé. Donc on vient de l'évoquer succinctement parce qu'effectivement, il faut un bouquin, il en faut probablement plusieurs pour expliquer tout ça. Mais il y a aussi le présent. Et alors, présent aujourd'hui à Montpellier, parce que on finira par ça, par l'avenir. Vous vous intéressez toujours de très près à votre ville.
En plus, j'y suis né. Alors.
Quand on lit votre bouquin, ça saute aux yeux. Mais il y a le maire, Philippe Sorel, que vous avez bien donc connu, côtoyé.
Ben oui, ben Philippe Sorel a été mon adjoint à la culture, à l'urbanisme, et mon adjoint à la culture.
Voilà. Mais finalement, on s'aperçoit que vous avez sur lui des jugements qui ne sont pas toujours très... sans complaisance, pour dire les choses.
Non, mais je dis les choses calmement, sereinement. La première chose qui m'a étonnée, je pense que ça peut étonner, quel que soit votre bord politique, vous pouvez être étonné. Moi, la dernière chose que j'avais faite, c'était d'inaugurer un pont, d'avoir baptisé ce pont le pont de la République, dont l'architecte était Rudy Ricciotti, qui est celui qui a fait le MUCEM de Marseille. Donc ça a été ma dernière inauguration avant la fin de mon mandat, mars 2014. Et lui, tout de suite après ces élections, il a débaptisé ce pont qui s'appelait la République. Alors je veux dire, donc effectivement, j'ai été relativement étonnée et surprise, mais sur le plan du symbole, moi, je pense que quel que soit un pont ou un bâtiment, une rue, une avenue, quand on porte le nom de République, c'est un nom qu'on garde. Voilà. Donc effectivement, je le dis dans le livre, je le lui dis simplement, calmement. Je lui dis, Philippe, je ne comprends pas que tu aies débaptisé un pont qui s'appelle la République. Voilà, tout simplement.
Donc, et voilà. Vous avez une explication? Est-ce que c'est une volonté alors de faire du passé Mandrou table rase, pour si je puis dire?
Non, je ne pense pas. Il a donné le nom d'André Lévy à ce pont. Alors André Lévy, je connaissais très très bien André Lévy. C'était un professeur de la faculté de médecine que je connaissais très bien et c'est un monsieur que j'admirais énormément. André Lévy,
qui a été l'adjoint à la culture
pendant très longtemps de Georges Frêche. André Lévy, je peux vous dire que vers la fin de sa vie, c'est pour vous dire que je connaissais bien, il venait vers moi pour m'expliquer les douleurs qu'il ressentait. Et donc je connaissais très bien André Lévy parce qu'il avait besoin de parler à une consoeur pour me dire ce qu'il ressentait. Et d'après ce que j'ai compris, Philippe et André Lévy, tout le monde connaissait qu'il appartenait à la franc-maçonnerie, tout le monde le savait. Mmh. Et d'après ce que j'ai compris, Philippe voulait honorer André Lévy, il voulait honorer la franc-maçonnerie. Mais je pense qu'il aurait pu le faire
d'une autre
autrement.
Façon,
voilà. Il pouvait, donc, parce qu'André Lévy, son nom avait déjà été donné à une salle. On pouvait très bien donner le nom d'André Lévy à une rue, à une avenue. Mais pas ce pont qui s'appelait la République. Oui, voilà, c'est tout, simplement.
Oui. Sans remettre en cause tel symbole.
Voilà, parce que la République, c'est la République, voilà.
Oui, mais surtout, oui.
Voilà, non, mais c'est simplement.
Oui, mais en ce qui concerne M. Sorel, Philippe Sorel, quand même, vous dites qu'il s'était engagé, alors ce qui est vrai, bien sûr, à être maire, et exclusivement maire, puis il est devenu autre chose, président de l'agglo, et puis vous dites aujourd'hui, c'est un candidat à plein temps, c'est pas un maire à plein temps.
C'est pas moi qui le dis. Pendant sa campagne, il a toujours dit je serai maire à plein temps. C'est vrai, il le disait toujours, régulièrement.
C'est un grand classique des élus. Ça.
Maire à plein temps.
En campagne. Hein.
Oui, en campagne, il disait je serai maire à plein temps. Et donc, progressivement, l'agglomération s'est transformée en métropole. Voilà. Il est devenu le président de la métropole. Après, il y a eu des candidats qu'il a présentés au département et qui ont été sur quatre cantons, il y a eu trois élus qui dépendaient de la majorité de Philippe Sorel. Après, il s'est présenté au régional. Et donc, progressivement, les médias, vous-même, vous avez dit, ce n'est plus un maire à plein temps, mais c'est un candidat à plein temps. Donc, j'ai repris, effectivement, ce qui est dit dans la presse, et on peut s'étonner, et surtout ce ceux qui s'étonnent le plus, ce sont surtout les Montpelliérains qui par contre ont retenu le message « je serai le maire à plein temps ». Et ça, les Montpelliérains n'ont pas oublié ce message, et donc ils n'ont pas trop compris. Ils n'ont pas trop compris, donc en même temps, je leur dis « ben voilà, voilà ». Donc je dénonce un petit peu cette façon de faire, peut-être fallait-il dire « avant ». Avant, par exemple, je souhaite transformer l'agglomération en métropole. Mmh. Et je demanderai, en tant que maire de la ville-centre, d'être le président de la métropole. Je pense que c'est quelque chose qu'il pouvait dire dans sa campagne, voilà,
ça,
tout simplement.
Oui, ça aurait eu le mérite d'être
cohérent. Parce que vous savez, aujourd'hui, alors je fais abstraction de l'histoire de Philippe, là, je parle de façon globale, et nationale et générale. Quand vous avez en France 50% d'abstention, je crois que tous les élus, quels qu'ils soient, là encore, tous les élus devraient se poser la question... Pourquoi en France 50% d'abstention? Parce que si demain vous enlevez les 50%, tout à l'heure vous parliez de votre petit sondage là par rapport à la population de la nouvelle région et du nombre de personnes qui avaient voté. Voilà. Donc 90 000, voilà. Mais là c'est pareil, quand vous regardez, vous enlevez les abstentionnistes, vous enlevez ceux qui. Le vote blanc, regardez le pourcentage in fine qui reste. Ça rejoint un petit peu votre raisonnement de tout à l'heure. Moi personnellement, je le dis dans le livre, je suis pour la reconnaissance du vote blanc. Je pense que le vote blanc, c'est une reconnaissance. Quelqu'un qui se déplace et qui fait un vote blanc, ou quelqu'un qui ne s'abstient et qui ne vote pas, pour moi, la signification est totalement différente. Et là encore, il faudrait que tous les élus, on se pose la question, pourquoi ? Alors peut-être que parce qu'on n'a pas dit réellement ce qu'on allait faire, par exemple. Voilà. Une explication parmi d'autres.
Et est-ce que vous gardez une action militante au quotidien, Hélène ?
Alors moi, je suis en congé du Parti Socialiste. C'est-à-dire que j'ai payé ma cotisation en 14, je l'ai payée en 15, je ne l'ai toujours pas payée en 16. Et surtout, en disant que je suis en congé du Parti Socialiste, ça veut dire que je ne participe plus du tout aux réunions de ma section. Je ne vais plus dans les réunions de section. Par contre, au moment des votes, j'ai voté, alors je vous le dis, là, j'ai voté pour la motion B, c'est-à-dire j'ai voté pour la motion de Benoît Hamon. J'ai voté pour cette motion parce que je trouvais que la motion A était assez floue. Et donc, voilà. Donc, je suis en congé du parti. Je ne participe plus aux réunions de ma section.
Voilà, mais forcément, vous restez dans l'âme militante socialiste.
Vous savez, j'ai appris en anatomie que le cœur était à gauche, et je vous le confirme.
D'ailleurs, j'ai remarqué sur votre livre que vous faites figurer le serment d'Hippocrate. C'est significatif aussi. Vous y tenez absolument.
Ah, mais j'y tiens absolument. Absolument. Oui,
ouais. Pour conclure, Hélène Mandroux, à la fin de votre livre, vous évoquez aussi l'avenir de Montpellier. Alors, Montpellier n'est plus capitale régionale aujourd'hui.
Ça, je suis en colère, je peux vous le dire. Hein.
Par exemple, et comment voyez-vous l'avenir de Montpellier ?
Je suis très en colère que Montpellier ne soit plus capitale régionale, parce que quand on regarde les 10 premières villes de France, nous sommes la seule aujourd'hui à ne plus être capitale régionale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, personnellement, je me serais battue avec Christian Bourquin pour garder cette identité. Et à un moment donné, je m'amuse un peu en disant « Est-ce que Toulouse avait envie de regarder vers la Méditerranée ?» Je réponds « Oui ». Mais dans un mariage, il faut être deux pour dire « Oui voilà. ». Est-ce que Montpellier avait envie de regarder vers la Garonne ?
Ça,
c'est à mon avis, c'est pas évident. Voilà. Et Montpellier, l'avenir, ben, c'est vrai qu'on avait un projet avec Michaël Delafosse, qui était donc mon adjoint à l'urbanisme après Philippe Sorel. Et ce Montpellier 2040, c'était, pourquoi 2040? Parce qu'on sait que la société, mais mondiale, de plus en plus s'urbanise, les campagnes se désertifient, on en a parlé tout à l'heure, et la population mondiale de plus en plus s'urbanise et s'agglomère de plus en plus autour des... Vous avez des mégapoles de plusieurs millions de personnes, et donc il faut anticiper cette croissance. Il faut ça, je crois, et vous savez, j'avais un slogan que j'ai répété à mes collaborateurs pendant des années, « Mettez-moi de l'humain dans l'urbain ». Voilà, et à force de le dire, ils ont entendu.
Et vous le martelez dans votre livre.
Mettez-moi de l'humain dans l'urbain.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure sur cette formule. Merci Hélène Mandroux
d'avoir invité.
Nous parler de votre livre, ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire.
Et je n'ai pas tout dit en plus.
Et que vous avez commencé à évoquer aujourd'hui. La semaine prochaine, pour terminer la saison de Radio Barque, nous recevrons, nous parlerons avec un autre écrivain, puisqu'aujourd'hui on parlait de livres, avec Daniel Hernandez, qui lui est un écrivain local. local qui écrit un certain nombre de polars et également de chroniques historiennes ou d'histoire de notre région. Et c'est là-dessus que nous terminons cette saison. En tout cas, merci encore Hélène Mandou.
Merci à vous.
Et à nos auditeurs. Et merci, à la semaine prochaine.
Et merci de m'avoir amené à Narbonne. Moi, je voudrais vous dire, je disais souvent, vu cette grande région, dans le fond, la capitale de cette grande région, qui est au centre, ça devrait être Narbonne.
Bon, alors là, j'espère, Hélène Mandrou, j'espère que les dieux vous entendront. À la semaine prochaine.